Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Angle Mort. Et aujourd'hui, c'est le dernier épisode de mon émission, mais pas des moindres, parce que le sujet d'aujourd'hui et de ce mois-ci aussi, c'est la Pride. Le mois de juin, c'est le Pride Month, le mois des fiertés. Alors, en premier lieu, faisons un petit rappel de l'histoire de la Pride. Pour comprendre la Pride, il faut remonter à un moment clé de l'histoire des luttes LGBTQ. Les émeutes de Stonewall, à New York, en juin 1969. À l'époque, aux États-Unis, l'homosexualité est encore largement criminalisée. Les personnes LGBT+, subissent une forte répression. Harcèlement, arrestations arbitraires, violences policières. Les bars gays sont souvent les seuls refuges, mais ils sont aussi régulièrement pris pour cible par la police. Le 27 juin 1969, la police effectue une descente dans un bar de Greenwich Village, le Stonewall Inn, toujours à New York, fréquenté notamment par des personnes trans, racisées et drag queens. Ce soir-là, contrairement aux descentes habituelles, les clients refusent de se laisser faire, ils résistent et très vite, comme vous avez pu le deviner, la colère explose. Pendant plusieurs jours, des centaines de personnes manifestent dans les rues. Ces émeutes sont spontanées, mais elles marquent un tournant historique. Parmi les figures de cette révolte, on retient notamment Marsha P. Johnson, une femme trans noire, militante, et Sylvia Rivera, militante trans latina, toutes deux pionnières de la défense des droits LGBT+. Un an plus tard, en juin 1970, on célèbre le premier anniversaire des émeutes avec une marche pacifique à New York. C'est la naissance de la Pride, la marche des fiertés. Alors, la Pride, c'est un moment pour lutter et célébrer des bienfaits de la résistance. Et même si c'est un événement qui ne s'est pas passé en France, il est quand même le symbole de la lutte pour les droits queer dans le monde. En parlant de symbole de la lutte, j'ai la chance d'accueillir Jordi Petit, un activiste LGBT catalan qui lutte depuis des décennies, même sous la dictature franquiste, lorsque vous et moi n'étions même pas nés, vous imaginez ? Alors Jordi Petit, pour résumer, c'est l'une des figures majeures du militantisme LGBT+, en Catalogne et en Espagne, dans un pays longtemps marqué par la dictature franquiste, où l'homosexualité était criminalisée jusqu'en 1979, vous imaginez ? Il s'est imposé comme un pionnier du combat pour les droits des personnes LGBT+. Dès les années 70, il s'engage dans le Front d'Alliberament Gay de Catalunya, FAGC, l'un des premiers mouvements homosexuels du pays. Il milite pour la dépénalisation de l'homosexualité, mais aussi contre les abus policiers et pour la visibilité des personnes LGBT+. Il est l'un des organisateurs des premières Pride en Catalogne et s'engage aussi au niveau international, notamment via l'ILGA, l'Association internationale lesbienne et gay. En reconnaissance de son parcours, Jordi Petit a reçu la Croix de Sant Jordi, c'est drôle non ? L'une des plus hautes distinctions civiles en Catalogne.
Il a accepté de répondre à mes questions et donc voici notre entretien.
Pouvez-vous nous parler des premières marches des fiertés en Catalogne ? Voyez-vous des différences avec aujourd'hui ?
Les premières marches de fierté en Catalogne étaient spécialement pour la dérogation de la dernière loi franquiste qui n'a pas été touchée malgré l'entrée à la démocratie. Ça veut dire que le dernier prisonnier politique, comme moi, nous sommes sortis de la prison le moitié juin du 77, mais cette loi de danger social, qu'on appelait Ley de Peligrosidad Social, restait encore. Le mouvement demandait la dérogation de cette loi, qui finalement a été réformée le 26 décembre de 78, et les gens sont sortis de prison la fin janvier de 79. Alors c'était des manifestations plus que de faire fierté. Oui, il y avait des pancartes qui disaient « Nous sommes », mais c'était contre cette loi répressive qui n'a été pas comprise dans les accords de la transition entre le régime, la droite et l'opposition. C'est-à-dire que l'opposition, cet homme-là, l'opposition de gauche, était très homophobe. C'était de vieux républicains qui ont vécu en France, même dans les pays soviétiques, et toutes ces histoires, ils ont rien appris du mai 68, pour vous dire une référence.
Quelle bataille il reste à mener pour la lutte des droits LGBT en Catalogne, mais aussi dans le monde, selon vous?
Bon, nous sommes dans une période, on est le 14 juin 2025, et la situation est en train d'aller en arrière, pour quelles claires raisons? D'abord, il y a des pays qui ont passé des lois positives pour la communauté LGBTIQ+, mais ils les oublient. Alors, il faut dans ces pays insister à les faire développer. D'autre côté, il y a une puissance de mouvements religieux intolérants, soit les évangélistes, soit certains courants arabes, islamiques, que ont constitué dans les seins des Nations Unies un lobby de 75 pays, c'est-à-dire un peu plus d'une tiers, qui essayent toujours de faire boycott pour l'élection de l'observateur des droits de la communauté LGBTQ. Ça veut dire que un grand succès de ILGA, ça a été avoir dans les Nations Unies cet observateur qui fait des rapports annuels avec tous les assassinats, tous les meurtres. Et bon, sans sa présence, et on peut insécure, il y a une très, très petite majorité pour continuer. Mais la situation est devenue pire dans les dernières années pour ces deux questions. Des pays qui sont développés vers l'islamisme radical ou que les évangélistes ont assez de pouvoir dans certains gouvernements de l'Amérique latine.
Comment transmettre la mémoire des luttes aux futures générations et comment transmettre l'essence du combat et son histoire?
La question de la mémoire historique, je pense, dans ce cas je vais parler des hommes gays, a eu le grave tragédie du sida. Ça veut dire que en Espagne, il semble que avant le sida, il n'a rien arrivé. Parce que ma génération, je suis né aux années 50, c'était une génération massacrée. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts à cause du sida. Et les autres ont resté choqués, ont resté mous. Et alors il n'y a pas une transmission générationnelle parce que la crise a été très profonde. Ou même, il y avait des gays qui accusaient d'autres gays d'avoir pris cette maladie parce qu'ils faisaient trop de promiscuité. Ce qu'on appelle une morale proche à ce que disait le Wojtyla, Mrs. Thatcher et Mr. Reagan, les grands pouvoirs des années 80. Alors ça a mis une barrière entre le passé et le présent. L'autre jour, parce que j'aime beaucoup parler de petits détails, non? Il y avait des filles à côté de chez moi qui s'embrassaient, des filles jeunes, et bon, ça c'était presque porno. Et je les ai félicités, j'ai dit c'est bien, que c'est beau voir ça, parce que moi, à votre âge, j'avais une situation de confusion sur ma sexualité terrible. Et vous pouvez vous embrasser avec toute liberté. Il y avait une loi de danger social. Elle connaissait rien du tout. Elle savait rien du tout qu'à ces périodes-là, les femmes, pas les lesbiennes, mais les lesbiennes comme femmes, ont passé beaucoup inaperçues dans les investigations qu'on fait aux prisons. On voit que les dossiers juridiques des jugements, tout sont d'hommes. Parfois, on ne sait pas si c'est un homme homosexuel ou un transsexuel, parce qu'à cette époque-là, tout était la même chose. Mais à Madrid et à Barcelone, il y a eu un ou deux cas de femmes. 89% c'était d'hommes. Mais bon, ça n'empêche pas d'étudier et savoir comment s'est passée l'histoire des lesbiennes, malgré qu'en Espagne et même en Italie, notre machisme apporter, par exemple, à une division, les filles qui étaient au front de libération gay de Catalogne, l'année 78, elles ont resté qu'une année, elles ont dit bon, nous partons, vous êtes trop machistes. Et ça, c'est arrivé aussi à Archigay, que c'est une grande organisation italienne, maintenant il y a Archigay et Archilesbica. C'est-à-dire dans le pays catho, on a eu des problèmes de travailler ensemble, absolument au contraire du pays du nord de l'Europe. Par exemple, en Suède, une fois à l'année, toutes les filles se rassemblent, elles prennent des points à travailler cette année, et c'est tout. Après, tout le monde travaille mélangé. Mais pas dans les pays catho et pas dans les pays de l'Amérique latine. Alors, pour moi, le plus important au présent, c'est imaginer et créer des réponses intelligentes, populaires et sympas contre le discours de la haine. Ça veut dire, il faut pas insulter aux fascistes, mais de leur dire d'une façon tranquille, écoutez, vous ignorez beaucoup de choses. Parce que même eux, même la population en général, ne connaît pas, ils ont oublié, on n'a pas étudié, qu'est-ce que ça a été le rapport Kinsey, l'étude de Evelyn Hooker au 57 et d'autres questions qui ont éclairé que la sexualité est très diverse. Il me plaît beaucoup l'apparition de quelques associations nouvelles, comme Prisma Science, parce qu'ils font un travail très intéressant, et tous sont des gens licenciés ou docteurs en biologie et sciences naturelles, et ils font un grand travail d'investigation chez les animaux. Par exemple, les dauphins, ils sont très beaux, très sympas, et tout ce que vous voulez. Mais les dauphins violent les femelles. C'est-à-dire que c'est bien qu'il existe des associations qui vont au musée. Il s'appelle Un Regard LGTV. Ils signalent toutes les absences des questions LGTBI. Par exemple, j'étais avec eux dans une visite au musée de l'ethnologie à Barcelone. Est-ce qu'il n'y a pas les ceintures de chasteté, toutes ces choses ne sont pas là. Alors, c'était intéressant de demander au musée de faire une histoire complète. Et par exemple, au musée d'histoire de la Catalogne, on a déjà préparé un guide pour toutes les périodes de l'histoire, que, en même temps que tu vois les siècles 9, 10, 11, on te raconte tout complet. Et par exemple, il y a un roi de la Catalogne qui avait une histoire avec un juif très riche. Ça, les catholiques n'aimaient pas beaucoup. Et quand ce roi était dans une guerre loin de Barcelone, ils ont profité pour le brûler. Oui, parce que c'était des époques où la violence était très courante, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Développer des nouvelles associations avec une capacité professionnelle de continuer à ouvrir les yeux de la science vers la diversité. Nier de façon sympa les mensonges sur nous. C'est-à-dire l'homosexualité, ça se prend pas comme le Covid. L'homosexualité, c'est pas une question de violer les mineurs, comme je viens d'écouter il y a quelques jours. Et pour ça, à l'ILGA, nous faisions la tactique, c'était les femmes, les lesbiennes, qui répondaient à ça. Mais dans ces moments, avec telle confusion de mensonges que tu peux trouver Internet, le blanc et le noir, en même temps, je trouve qu'il manque une alliance forte des associations pour unifier un discours anti-répressive, mais c'est gagner la bataille culturelle. Parce que dans un moment, aux années 80, avant le sida, on pensait que nous avions gagné la bataille culturelle, mais maintenant, c'est pas clair. Et surtout, je pense que il faut pas se préoccuper pour avancer. En tout cas, dans l'éducation. Mais pour le reste, le plus important, c'est résister et consolider les droits et les lois qui sont déjà obtenus. À l'Argentine, ils sont en train de tout couper. Bon, il faut conserver les droits.
Que pensez-vous de l'évolution de la Pride, qui devient un peu parfois un objet de marketing? On fait des t-shirts avec le drapeau gay, on fait des tote bags. Est-ce que vous estimez que c'est un problème?
L'évolution de la Pride a eu toujours un certain secteur d'activistes qui sont pas tout d'accord par cette façon festive. Je pense que il faut célébrer, il faut faire une fête de tout ce qu'on a gagné, de la solidarité que a devenu, par exemple, quand en Russie, à l'année 90, la Russie a retiré l'homosexualité de la liste des maladies. Alors, le côté festif, je pense que c'est nécessaire. Et en même temps, ça sert pour expliquer que le concept de Pride, ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs à personne. Nous ne sommes plus délinquants, malades. Malgré tout ça, il y a des marketing, des entreprises commerciales. Moi, je suis du côté de que tous sont bienvenus si, pendant l'année, dans ces entreprises, il y a l'égalité de ses employés au niveau de égalité des droits de la femme et égalité des droits des personnes LGBTI. Je viens de savoir que à la Pride de Londres, il y a quelques entreprises qui se sont retirées. Ça veut dire de l'argent. C'est-à-dire, si tu vas dans des endroits gays, dans la disco, et tu prends cette bière, ça c'est un profit pour eux, même pour les bars, les discos. Par exemple, l'année dernière à Barcelone, toutes les chars avaient l'obligation de porter le même slogan. Pour une éducation en l'égalité et la diversité. C'est pas un problème. C'est-à-dire, nous sommes dans une société libérale. Et alors, si ça nous donne plus de force, ça va continuer. Par exemple, nous n'avons eu une Pride massive jusqu'à 2010. Pourquoi cette différence? Parce qu'à Madrid, il n'y a pas eu aucune bataille entre les associations pour faire pousser la Pride. Les associations ont soutenu le développement du quartier de Chueca. Les gens venaient de toutes parts de l'Espagne et le jour de la manifestation, ça a été massive. Et je pense que ça nous a donné le droit du mariage parce que ceux qui gouvernent regardent comme quelle est la corrélation force. Tandis qu'à Barcelone, non. À Barcelone, on a eu des courants que jamais se mettaient pas d'accord. Ils ont voulu pas rien savoir du sida. Ils ont dit, non, ça c'est une question d'hôpitaux, de médecins. Et le mouvement gay, il doit pas s'engager à ça. Et donc, nous avons dit, non, il faut s'engager. Il faut être là où sont les gays, distribuer les capotes. Cette division, finalement, a été résolue pour les Eurogames de l'année 2008, qui ont été un tel succès qu'après c'était déjà impossible de ne pas faire une manifestation massive qui a commencé le 2008. Je comprends qu'il y a des discours qui mélangent la libération gay avec la révolution, mais je les demande toujours, mais quelle révolution? Jusqu'à Staline, la première édition de la encyclopédie soviétique parlait de l'homosexualité comme une variation de sexualité humaine, mais quand Staline est déjà au pouvoir, ils ont changé dans la deuxième édition de l'encyclopédie, ils ont dit c'est un vice capitaliste des nazis, bourgeois, etc., etc. Mais l'homosexualité, la bisexualité, la transsexualité sont transversales et ça a été difficile de convaincre la gauche de que ça c'était comme ça. Comment on peut changer le système si tous les autres systèmes ont fait l'échec?
Et enfin, dernière question. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes queer qui peut-être sont au lycée français ou même juste de manière générale des jeunes LGBT?
Mon message pour les jeunes queer, c'est de faire beaucoup de pédagogie à son entourage, de marier ou pas marier, mais de pas cacher ses relations, c'est-à-dire la visibilité. Il faut être visible jusqu'à devenir indifférent. Et ça, c'est pas facile, hein, parce que parfois, il y a des gens qui t'attaquent ou t'insultent pour voir un couple du même sexe se promener par ici ou là. Et surtout, connaître l'histoire de ce mouvement, qui c'est pas une longue histoire. Oui, on peut aller jusqu'à Moyen-Âge, parce que l'Antiquité, l'histoire de la dissidence sexo-affective et de l'expression de genre a été une histoire de punition. L'éducation, pour moi, c'est le but le plus important pour aider à déproblématiser et normaliser la différence. Parce que nous sommes dans une société diverse. Et il faut pas que tout le monde soit comme les autres. Il y a diversité et il n'y a pas un droit plus humain dans le droit de l'homme que le droit de s'aimer et de s'amuser, que le droit d'être.
Moltes gracias, Jordi. Va ser un plaer conèixer-te. Merci d'avoir témoigné de votre expérience et merci pour votre expertise. C'était tellement intéressant et inspirant en tant que jeune queer d'entendre ça et j'espère aussi pour les autres qui ne sont pas queer que ça les intéressera et que ça leur permettra de s'éduquer sur toutes les luttes qui ont eu lieu pour atteindre ces droits et que ça les convaincra de la légitimité du combat. C'était tellement enrichissant d'apprendre toutes ces choses-là et d'échanger avec Jordi. Je pense que notre rencontre m'a aussi permis d'ouvrir les yeux sur la difficulté que ça a été d'être une personne queer à l'époque. Et à quel point aujourd'hui on a une situation beaucoup plus confortable. Je suis très reconnaissante que des personnes comme Jordi se soient battues pour nos droits. Et la lutte continue et c'est toujours important de se battre et en tout cas moi j'arrêterai jamais. Et je pense que c'est le meilleur épisode pour terminer mon émission parce que je trouve que de un c'est un magnifique message avec lequel il termine notre interview que le droit le plus normal c'est celui de s'aimer. Et à la fois je suis hyper contente que ce soit ma dernière émission et le dernier épisode parce que je trouve que ça montre exactement ce que j'ai essayé de faire à travers Angle Mort. C'est essayer de mettre en lumière des sujets qui ne sont pas abordés à l'école ou en tout cas qu'ils ne sont pas assez mais qui pourtant sont la réalité de tellement de personnes et qui méritent d'être mis en lumière et qui méritent d'être abordés et qui méritent d'être normalisés. Comme le dit Jordi, il faut que ça devienne la norme.
Quant à vous, mes auditorices, je sais pas trop comment on dit adieu dans une émission de radio, en langage radiophonique, peut-être salutation radiophonique, comme dit Anne. J'ai adoré faire mes émissions, c'était trop fun, alors merci. Et please, soyez vigilants avec les angles morts.
Same old story time again. Got so close, but then you lost it. Should have listened to your friends about his girlfriend back in Boston. You sent him pictures and playlists and phone sex. He disappeared from the second that you said, let's get coffee, let's meet up. I'm so sick of all I love, and I don't. Why can't any man
hit it like, get it hot, make a bitch, it's a fam. Hit it like, get it hot, make a bitch, it's a fam.
Can you play a song with a fucking beat?
Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon.
So let's say it's working out. You pretend to love his mother, lying to you.